Alors ce soir, nous poursuivons ce que nous faisons déjà depuis plusieurs semaines. C'est l'étude des 10 commandements dans le livre d'Exode au chapitre 20. Nous tendons vers la fin et donc ce soir nous sommes arrivés au 8e commandement, donc dans Exode 20, le verset 15. C'est très court comme texte. « Tu ne déroberas point. » C'est clair ? « Tu ne déroberas point. » C'est très, très clair. Comme nous l'avons déjà dit depuis quelques semaines, le 8e commandement fait donc partie de ces commandements, la série de ces commandements qui régissent notre relation, nos relations avec le prochain. Si la première partie concernait davantage le respect, l'honneur qu'on doit donner à Dieu, mais la deuxième partie, c'est les relations avec le prochain, nos relations avec le prochain. Et l'apôtre Paul le dit en ces termes dans l'épître aux Romains, chapitre 13, le verset 9. Il dit que donc, tous ces commandements qui concernent nos relations avec le prochain se résument en ceci, Romains 13, 9. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, car l'amour ne fait point de mal au prochain. » Si tu aimes le prochain comme toi-même, ben, tu ne lui feras pas de mal. Tu vas lui faire que du bien, comme tu souhaites que tu le fasses. Et Jésus lui-même l'a enseigné dans Matthieu, au chapitre 7, le verset 12, quand il dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, ben vous aussi, faites-le de même pour eux. Parce que si vous ne voulez pas qu'on vous fasse du mal, ben ne faites pas de mal au prochain. » Voici ce qu'est l'amour que le Seigneur nous recommande. Donc personne... Je suis convaincu, si je demandais à chacun d'entre nous ce soir, personne ici ne voudrait qu'on lui dérobe quelque chose qui lui appartient. N'importe quoi qui t'appartient, c'est pour toi. Tu ne voudrais jamais que personne ne te dérobe la chose. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers ce 8e commandement? On va le dire en simplement ceci, le Seigneur, Dieu veut nous apprendre le respect de la propriété privée. Ce qui est à toi, est à toi. Ce qui est à autrui, est à autrui. On se doit respect mutuel en respectant cette propriété privée. Le droit à la propriété privée est reconnu, même dans la Bible, partout, à tous les individus. Tout individu a droit à la propriété privée. Donc, c'est ce qui permet à une société de vivre en paix. C'est ce qui permet dans une société de vivre dans la justice. C'est ce qui permet à une société d'être stable. Imaginez un peu ici, au Québec, que du jour au lendemain, quelqu'un vienne prétendre sur votre maison, avoir des prétentions sur votre maison. Il dit, bon, à partir de maintenant, c'est ma maison. Mais comment ça? J'ai le titre de propriété. Non, je veux que ce soit ma maison. Non, il faut respecter la propriété privée. Et Dieu veut que nous le sachions et il protège cela aussi. Donc, ce 8e commandement dénonce de façon tout à fait générale et globale, nous entrerons un peu plus dans les détails, ce 8e commandement dénonce donc de façon générale le fait de s'approprier illégalement, par des voies autres que des voies légales, s'approprier illégalement, ou par des voies malhonnêtes, ou par des voies frauduleuses, ou par la force, je ne sais pas, de s'approprier ce qui appartient à autrui. Chaque fois qu'on le fait, on le fait de manière frauduleuse, on le fait par la force, on le fait de manière illégale, ben on est voleur tout simplement parce qu'on a posé un acte de dérober. Ça reste vrai, même si on ne vous a pas attrapé. Vous êtes voleur. Aux yeux de Dieu, vous êtes voleur. Vous avez dérobé ce qui ne vous appartient pas. Aux yeux de Dieu, vous êtes voleur. Même si vous n'avez pas été attrapé, même si vous êtes en position de force. Dans certains pays, ben, un général vient avec sa tenue militaire, avec ses militaires, il dit, allez, tu déguerpis, moi, j'occupe le terrain à partir de maintenant. Même si tu es en position de force, même si tu es en position d'autorité, aux yeux de Dieu, tu es un voleur, tu as dérobé. Ce n'est pas à toi et tu te saisis ce qui n'est pas à toi. Même si on essaye de réduire au silence les gens qui peuvent le dénoncer, Les voisins peuvent crier, mais vous les menacez. Même si vous les faites, même si vous arrivez, les gens ont peur pour leur vie, personne ne parle plus et vous prenez carrément le terrain de quelqu'un d'autre. Vous êtes un voleur, vous avez dérobé. Il y a des choses pareilles qui se passaient à l'époque de Michée. On va lire un passage qui est dénoncé justement à l'époque de Michée. Michée chapitre 2, qui dit ceci à partir du premier verset. « Malheur à ceux qui méditent. » Il y avait des oppresseurs vis-à-vis du peuple à ce moment-là. « Malheur donc à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. » Pendant qu'ils sont encore couchés, ils sont endormis, ils sont en train de calculer à qui je vais aller piller, qui je vais aller piller, à qui je vais faire du mal. Malheur à ces gens. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main, les gens qui sont en position de force. Verset 2. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent. Pauvre citoyen, pauvre paysan qui a son champ depuis des années, le champ qui nourrit sa famille, le champ qui est une provision pour lui, ben, il y a des gens qui le convoitent, qui s'en emparent, ils s'emparent des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Voilà pourquoi le Seigneur parle. « Voici, je médite contre cette race, un malheur, vous n'en préserverez pas vos coups et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps sont mauvais. » Au verset 6, il est dit ceci, « Ne prophétisez pas. » Ils vont jusque-là, empêcher les gens de prophétiser, empêcher les gens de dire la vérité. Parce que quand vous dites la vérité, vous prophétisez sur le mal que ces gens font. C'est des oppresseurs. Ils empêchent même. Ne prophétisez pas, disent-ils, qu'on ne prophétise pas de telles choses. Les invectives n'ont point de fin. Quand on est en position de force, c'est ce qui arrive. On veut faire taire les gens. On veut même faire taire les serviteurs de Dieu. Dans certains pays où il y a des dictatures, c'est cela. Pasteur qui prêche contre ce qui se fait dans le pays, on l'arrête ou on ferme son église. C'est des choses qui arrivent. C'était pareil donc à cette époque. Dans tous les cas, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu, lui, voit tout. Dieu voit tout et personne n'échappe à son regard. Maintenant, le texte que nous lisons, c'est Dieu qui veut protéger la propriété privée. Mais on sait que c'est tellement vrai, c'est tellement bon que même les lois humaines ont emboîté le pas au Seigneur. Dans chaque pays, il y a des lois qui protègent la propriété privée. Il y a des lois, même si on ne les respecte pas toujours, même si on essaie de les contourner, mais au moins ils ont voté des lois pour reconnaître que chacun a droit donc à la propriété privée et donc on punit tout acte d'extorsion qui peut y avoir. Même si ces lois ne sont pas toujours appliquées comme il se doit, mais elles existent, elles ont le mérite d'exister et de condamner le mal qui est fait quand on dérobe quelque chose à quelqu'un. Alors, dérober, ça inclut toute forme de mot, là. Toute forme de mot, ce n'est pas juste qu'on a dérobé quelque chose. Vous savez, il y a des pratiques qui se font actuellement où il y a encore des formes d'esclavage, des femmes qui sont esclaves, qu'on amène dans des maisons de passe, des esclaves de sexe. Il y a des femmes, des jeunes filles que l'on amène dans ce genre de pays ou dans des pays d'Europe pour faire le travail de ménage, hein, mais qui sont en fait... C'est du vol que l'on fait, tout ça étant dans cette catégorie. Dans la catégorie des vols, c'est le fait de receler quelque chose qui a été volé par quelqu'un d'autre. Vous dites, moi je n'ai pas volé. Mais vous savez par exemple que le bien que vous gardez chez vous, même dans la loi du monde ici, on sait que c'est un receleur. Il y a d'autres types de vols ici, le fait de refuser de payer sa dette, c'est du vol. Vous avez contracté une dette auprès de quelqu'un, vous refusez de la payer, ben c'est du vol. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a quelques années en Russie, je ne sais plus quel coin exactement de la Russie, il y a une dame qui devait de l'argent à quelqu'un ou à la banque, je ne me rappelle plus, et qui a dû changer de sexe. Imaginez-vous jusqu'où on peut aller pour pouvoir fausser les choses. Pour qu'on ne la reconnaisse plus, elle change de sexe, elle change de nom, espérant échapper. Mais on l'a retracé et on a dit non, tu as changé de texte, tu ne t'appelais plus tel, mais l'acte que tu as signé, tu l'as signé avant cette opération. On a mis la main dessus et on l'a arrêté. C'est du vol que de refuser de payer sa dette. Je signalais aussi un autre cas, des choses que l'on fait, des fois inconsciemment. C'est le fait de refuser de restituer. Peut-être pas refuser, mais le fait de ne pas restituer un bien emprunté. On emprunte tellement de choses entre nous. Peux-tu me passer ton CD? Je vais l'écouter. Je vais te le remettre après. Peux-tu me passer tel livre? Je vais le lire. Je vais te le remettre après. Vous savez que le livre ne vous appartient pas. Vous connaissez le propriétaire et vous ne le remettez pas. Vous dites, oh, ça fait longtemps. Soit il a oublié. Ce n'est pas grave. C'est du vol. Vous avez dérobé. Vous le savez. Vous avez dérobé. Ça va si loin que ça. Et j'entends, même si les voix ne sortent pas, mais pasteur, tu exagères. Tu exagères. Et des gens qui vont l'entendre, peut-être, quand ce sera sur le site, ils disent, oh, il vit dans quel siècle? Non, frères et sœurs, il faut qu'on se dise la vérité. Le bien ne t'appartient pas. Tu le gardes par-devers toi. Je me souviens quand on a donné la vie au Seigneur, quand on nous a appris ces choses. Frères et sœurs, on a fouillé dans nos maisons. On a fouillé dans nos maisons. Et pour autant qu'on sache qui était le propriétaire de tel ou tel bien qu'on avait gardé, j'ai aimé tel livre, je l'ai gardé parce que bon, je sais qu'il peut s'en acheter un autre. Non, on voit la personne, on va voir la personne. À moi, c'est au moment-là qu'ils vous disent, ok, non, je m'en suis procuré un autre, je m'excuse, mais je m'en suis procuré un autre, tu peux le garder. Autrement, c'est du vol. Vous avez dérobé à quelqu'un qui était propriétaire de ces biens. Il y a plusieurs textes qui en parlent. Je vais juste les lire. Dans le livre de Deutéronome d'abord, verset 24, pour que vous soyez sûrs que ça ne vient pas de moi. Deutéronome chapitre 24, le verset 7 dit ceci. Si l'on trouve un homme qui ait dérobé l'un de ses frères, l'un de ses enfants d'Israël, et qui en ait fait son esclave ou qui l'ait vendu, ben, il y a une sanction qui a été prévue. Ce voleur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. C'est un mal de faire ce genre de commerce. Chaque jour, on voit sur Internet, dans tel quartier du Québec, dans telle ville du Québec, telle jeune fille a disparu de 15 ans, tel enfant de tel âge a disparu. Ils ne disparaissent pas dans la nature, c'est des gens qui les prennent pour en faire soit des esclaves, soit pour abuser d'eux, je n'en sais rien. Mais c'est cela, c'est condamné, l'exploitation du prochain. Dans le livre des Proverbes, on a un autre texte. Proverbes, chapitre 29, le verset 24, ça parle de ce recel. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Tu partages avec un voleur. Tu sais que c'est qu'il est en train de te faire, il te fait jouir de l'argent qu'il a volé. Tu es ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. Partager avec le voleur en sachant que c'est des biens volés. Nous lisons un autre texte dans Romains, l'Épître aux Romains, chapitre 13. Je vais lire le verset 8. « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Ne devez rien à personne. Si vous devez quelque chose à quelqu'un, payez-le. Ne refusez pas de payer vos dettes. Donc, il y a tous ces aspects qui sont englobés dans cela. Souvenez-vous de l'histoire d'Élisée avec cette veuve qui est venue voir, demandant son intervention parce que ses deux enfants étaient menacés. Quand il lui a donné la solution d'aller mettre des vases dans la maison, de l'huile, etc. Va, vends cette huile et paye ta dette. Il aurait pu dire, tu es une veuve, tu as des problèmes, mais garde ça. Non, paye ta dette, ça te libère. Ne reste pas débiteur de quelqu'un. Donc, ne refusons jamais de payer nos dettes dès que nous les avons contractées. Alors, le vol sous toutes ses formes ne doit pas tout simplement avoir une place dans la vie des enfants de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons rechercher l'approbation de Dieu dans toute notre vie. Rechercher l'approbation dans toute notre vie, de tout ce que nous faisons, parce que les voleurs, c'est-à-dire ceux qui dérobent, le huitième commandement dit « tu ne déroberas point », parce que les voleurs rentrent dans la catégorie des injustes dont Paul parle dans 1 Corinthiens, et on peut le lire au verset 6, 1 Corinthiens 6, le verset 9, il dit que « ne savez-vous pas que les injustes, et vous allez voir qui entre dans la catégorie des injustes, n'hériteront point le royaume de Dieu ». Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs. Ça fait partie de ceux qui sont qualifiés d'injustes et qui ne verront pas le royaume de Dieu. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Maintenant, On a vu des notions ici et là, mais qu'est-ce qui détermine qu'un geste soit considéré comme un vol? Bon, au début, quand j'ai défini ce que c'était dérober, ce que c'était voler, c'était clair. Mais on dit, ce qui définit que c'est un vol, c'est dès lors, à partir du moment où on soustrait quelque chose à quelqu'un. Vous soustrayez quelque chose à quelqu'un. Vous privez quelqu'un de jouir de ses droits, de sa propriété, etc. Mais sans son accord, que vous le faites sans son accord, ben, vous êtes voleur. Vous avez dérobé. C'est très simple. Il faut qu'il y ait l'accord de quelqu'un pour que vous puissiez jouir, utiliser et le priver de jouir de son droit de propriété sur son bien. Maintenant, cela ne dépend pas de l'importance de la chose que nous avons prise. Ça ne dépend pas de la valeur de l'objet que nous avons pris. On peut se tromper là-dessus. J'ai piqué, j'exagère peut-être, 5 dollars à quelqu'un. Ce n'est pas grave, il est millionnaire. C'est dérobé. Ça ne dépend pas de la valeur. C'est l'idée même que tu as pris, sans l'accord de l'autre, quelque chose qui lui appartient et tu l'as privé de son droit de propriété sans son accord. Donc, ça ne dépend pas de l'importance. Ça ne dépend pas de la valeur de l'objet dérobé. 50 dollars, 5 dollars, tout comme 10 000 dollars, tout comme 1 million de dollars, quand vous avez pris cela, c'est du vol si vous l'avez fait sans l'accord de la personne. Merci Seigneur de nous garder. Je vais aller dans un domaine, pour ceux qui travaillent, dans un domaine où on se permet des choses, mais on ne réalise pas que ça aussi, c'est dérobé pendant que tu es au travail. Tu es payé pour faire 7 heures de travail. Tu as dedans 7h30, tu as des heures de pause, tu as des heures de dîner, etc. Tout est calculé. Mais ce qui sort de tes heures de pause, de tes heures de dîner, mais c'est des heures de travail. Si tu te permets de piquer par-ci, par-là, 30 minutes pour aller regarder, le patron ne voit pas, le patron n'est pas là, le patron... Tu vas sur Internet pour faire d'autres choses et que tu ne remets pas ce temps par ailleurs, c'est dérobé. C'est du vol. C'est du vol. Nous sommes tous tombés dans ce piège, évidemment. Vous savez que pendant le temps que vous faites ça, il y a des tâches qui vous attendent. Il y a peut-être des clients qui attendent que vous livriez des produits. Il y a peut-être des clients qui attendent que vous fassiez un coup de fil. Il y a peut-être des gens qui attendent que leur dossier soit traité et vous êtes en train de passer du temps à regarder des choses privées. Ce n'est pas de l'exagération. L'enfant de Dieu doit raisonner, doit pousser son raisonnement jusque-là, à faire attention, pas seulement dans les grandes choses, même dans les petites choses. Notre fidélité envers Dieu doit être juste dans les petites choses de chaque jour. C'est pour ça que je l'apporte ainsi. Donc, ça ne dépend pas de l'importance de la chose. Ça ne dépend pas. Ce n'est que 30 minutes. Oh, j'ai fait 7 heures au travail. Ce n'est que 30 minutes. 30 minutes que tu passes à regarder des histoires sur le sexe des gens. Il y a des gens qui ont perdu, vous le savez, qu'il y a des gens qui ont perdu leur travail à cause de ça. Pendant les heures de service, on les attrape en train de regarder des choses de pornographie, etc. Ou de passer du temps à faire autre chose quand le patron le découvre, ben, il y a des gens qui ont perdu leur emploi comme ça. C'est pour dire que c'est sérieux de respecter les heures que l'on doit passer au travail. Maintenant, le fait donc de soustraire à quelqu'un ne dépend pas non plus de qui, à qui vous avez fait ce mal. Ça ne dépend pas de la victime. Vous allez dire, voler un pauvre ou voler un riche, ce n'est pas la même chose. Mais ça s'appelle comment? Ça s'appelle voler. Donc ça ne dépend pas de la victime. L'être humain est fort dans cette tendance à vouloir relativiser le mal. On essaie toujours de se donner raison dans beaucoup de choses parce qu'on dit, mais c'est relatif, voyons. Il n'a même pas vu. Non. C'est pas que lui n'a pas vu. C'est pas qu'il n'a même pas senti que vous lui avez pris quelque chose. Mais il y a quelqu'un qui a vu que ce que vous avez fait n'est pas bon parce que vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous l'avez dérobé. Ça ne dépend pas de la victime. Donc, arrêtons de relativiser les choses par rapport à celui envers qui on a commis cet acte. C'est une erreur, c'est une erreur. Et nous allons le voir ce soir, c'est vraiment l'objet du partage de ce soir. Nous allons passer en revue différentes situations qui vont nous permettre de mieux cerner le problème. Parce que si ce n'est pas très clair, chacun peut se permettre de faire sa propre idée de ce que c'est que dérober. Et il peut toujours trouver des façons de s'auto-justifier. Mais non, moi, non. Je n'avais pas l'intention de nuire, mais non. Nous allons voir que, ben, il y a toutes sortes de victimes potentiel de nos actes et nous n'avons pas à nous auto-justifier dès lors que la parole de Dieu est claire. Alors, quelle sorte de victime auxquelles nous pouvons avoir affaire? La victime peut être un inconnu pour vous. Vous êtes en train de marcher sur la rue, ici en avant, et vous retrouvez un cellulaire. Et peut-être que dans ce pays, le cellulaire n'a pas beaucoup de valeur, mais quand même. Parce que si vous avez acheté l'appareil, ça coûte un certain montant. Alors, vous trouvez un cellulaire, vous dites, oh, mais je vais le prendre. Tu prends, incognito, personne regarde autour, personne ne m'a vu, je prends. De toute façon, qui est? Tu peux même crier, dire, où est le propriétaire de ce cellulaire? Tu ne le trouves pas? Tu le prends avec toi, tu pars, tu dis, je ne connais pas. De toute façon, c'est un inconnu, ça n'a pas de valeur. C'est du vol. La Bible dit dans le livre des Lamentations 3, verset 36, « Quand on fait du tort à autrui, même si on ne le connaît pas, quand on fait du tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas ?» Ce qui doit nous préoccuper, c'est que comment le Seigneur juge mon geste. Lui qui voit ce que je fais en ce moment, comment est-ce qu'il juge? Est-ce qu'il est en accord avec moi? Est-ce qu'il trouve que ce que je fais est correct? Est-ce qu'il trouve que ce que je fais n'est pas à l'encontre de sa parole? Mais je prends ce cellulaire, je le prends dans la poche, je pars avec. Il se peut pourtant que le propriétaire peut passer 2 minutes après, quand il s'aperçoit qu'il a laissé tomber son cellulaire, il repasse dans l'avenue espérant le retrouver. Vous l'avez pris, vous êtes parti avec. Prenez-le à la limite, déposez-le sur, ou amenez-le sur, je ne sais pas moi, pas à la police ou quelque chose de ce genre, en tout cas, faites quelque chose. Ou mettez-le là-bas, ou donnez-le. C'est une église est ouverte, donnez à l'église, peut-être quelqu'un de l'église, on va voir, etc., si on peut reconnaître la personne. Mais ne pas saisir et prendre et emporter, c'est donc du vol. Une autre sorte de victime, ça peut être les parents. Je l'amène parce que les parents sont souvent victimes des mauvais agissements de leurs enfants. On n'a pas le droit de voler nos parents. On n'a pas le droit. Ce n'est pas parce que c'est nos parents, ce n'est pas parce qu'on dit « c'est l'argent de mon père » que j'ai le droit de prendre sans son accord. La victime peut être les parents. Nous avons vu en étudiant ces commandements, le commandement qui dit qu'on doit honorer nos parents, qu'on doit les respecter, mais aussi on ne devrait sous aucun prétexte les priver de leurs droits, de jouir de leurs biens. On ne devrait pas, même s'ils sont à un âge avancé. Même si c'est surtout là que ça se passe. C'est surtout là que ça se passe. Ah, il va bientôt partir. D'ailleurs, il n'a même pas besoin de tout ça. Non. Demande-lui, même à l'âge avancé, demande à ton père, demande à ta mère, est-ce que je peux profiter de ces choses? La victime, ça peut être nos parents. On les vole, ils se font voler. C'est triste à dire, mais ils se font voler. La plupart se font voler parce qu'ils sont dans une position de précarité, un moment de faiblesse physique. Et ils ne sont plus en pleine possession de toujours de leurs moyens, etc. Un moment de maladie. Vous profitez de ce moment pour voler, pour dérober. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible pour un parent de vivre des choses comme ça. La Bible dit ceci dans le livre des Proverbes 28, verset 24. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « ce n'est pas un péché » est le compagnon du destructeur. Qui est le destructeur? C'est le diable. Il est le compagnon du destructeur. Et je vais lire quelque chose. Donc, Proverbe 28, le verset 24. Je vais le lire exactement comme il est dit ceci. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit en lui-même, ce n'est pas un péché, est le compagnon du destructeur. Alors, ici le commentaire dit, piller sa propre famille représente un crime inimaginable, inimaginable. Et c'est encore pire quand on refuse de l'admettre et qu'on s'auto-justifie et qu'on se dit en soi-même, j'ai rien fait de mal, c'est l'argent de mon père. C'est terrible, un crime inimaginable. Quand les parents l'apprennent, c'est comme un coup de couteau qu'on leur donne. Amen. Amen. La victime peut être un inconnu. On se dit, je ne sais même pas c'est qui. Mais ça peut être les parents. C'est encore plus grave. C'est inimaginable. Profiter de l'âge avancé, profiter des moments de précarité de leur vie, au lieu que ce soit le moment où on doit les entourer, leur manifester notre amour, mais c'est le moment où on vient comme les poignarder. C'est terrible. Pour ceux qui sont en affaires. On va aussi aller dans ce domaine. La victime peut être votre client. Le client, c'est lui qui vous fait vivre. Le client, c'est lui qui vous apporte l'activité qui permet à votre entreprise de continuer à tourner. Mais combien de fois on a tendance à rouler les clients, à leur voler, on les trompe. On est en affaires, on trompe chaque fois les clients et on les trompe chaque fois qu'on falsifie les prix. Vous connaissez la valeur de votre marchandise, mais vous mettez un prix exagéré par rapport à la qualité, par rapport à la valeur réelle de la marchandise. Le prix peut même des fois varier selon la personne que vous avez en face. Lui, je sais qu'il a beaucoup d'argent, je vais mettre tel prix, l'autre, c'était l'autre prix. Toutes sortes de manigances vis-à-vis du client, vous pouvez voler vos clients. Et on le fait beaucoup, vous falsifiez vos prix. Vous faites une mauvaise représentation de votre marchandise. Ça s'appelle faire de la fausse publicité. Oh, là, ils sont forts là, aujourd'hui dans ça. Quand vous voyez les publicités qu'il y a sur Internet ou à la télévision, là, tout le monde se rue. Là. Ces temps-ci, il y a un petit appareil là, qui dit que la manière dont on présente, ça, on dit que c'est un petit appareil hein, climatisé. Ils ont profité évidemment de la période de fortes chaleurs ici. Ils disent que c'est des petits appareils ici qui ne prennent pas de place, mais qui sont capables d'aérer, de climatiser une petite salle. Ça ne coûte pas cher. Alors, j'ai vu des choses du genre... C'est la mort, c'est la fin des climatiseurs classiques, des maisons comme ceux que nous avons. C'est pas vrai. Quand vous voyez cet appareil, parce que moi j'en ai acheté un aussi, on vous dit que c'est une autonomie de 8 heures. Une autonomie de 8 heures. Mais vous mettez de l'eau, quand vous le mettez en marche, là, l'eau descend à vue d'œil. Il faut chaque fois remplir l'eau pour pouvoir bénéficier de fausses publicités. Vous vantez les mérites, même, les mérites d'un appareil qui ne sont pas réels. Dieu merci que ce n'est pas une fortune, mais bon. Mais il y a des choses comme ça où les gens investissent des sommes importantes, mais ils s'aperçoivent qu'ils ont été roulés tout simplement. C'est du vol. Il y a quelques années en arrière, il y avait un membre de cette église qui venait d'acheter une maison. Alors les rapaces sont toujours autour. Ils téléphonent. Ah, monsieur... On est représentant du gouvernement fédéral, alors il y a un programme du gouvernement fédéral qui permet d'installer des climatiseurs dans les maisons, et puis nous finançons ça, et puis vous pouvez payer ça sur 3 ans ou je ne sais pas quoi. Ça coûte autant, et en plus, non seulement nous vous finançons, mais vous avez un retour d'impôt important. Le gouvernement permet que vous récupériez, je ne sais plus, 25, 30% ou plus, et c'est alléchant pour des gens. Alors, ce frère... Dieu a permis, vraiment, Dieu est bon, a permis qu'on aille le visiter. C'était la première fois qu'on allait le visiter. Il venait d'acheter une maison, on va le visiter, on dit... Et il nous parle de ça, il dit, ah oui, il y a des gens qui sont venus nous voir. Moi, j'avais déjà été abordé par ces gens, mais je suis tellement alerte dans ce genre de choses, j'ai rejeté tout de suite. Et il me dit la même chose, il dit, mais ça s'appelle telle maison, et puis il travaille pour le... Il se présente comme étant des agents du gouvernement. Non, ce sont des simples vendeurs qui vont sur le site internet et qui voient, en tout cas. Et ils disent à ce frère, il dit, ça coûte 30 000 dollars pour mettre une climatisation centrale, donc alors ça va pomper de l'air dans toute la maison et tout et tout. Moi, j'ai dit, arrête ça tout de suite. C'est de la fraude. Arrête ça tout de suite, 30 000 dollars, c'est une climatisation d'un immeuble, c'est quoi cette affaire? Arrête ça tout de suite, parce que tu peux avoir une climatisation suffisante pour toute ta maison, à moins que ça, beaucoup moins que ça, autour de 5 000, 6 000 dollars, tu peux avoir un très très bon, et tu n'as pas besoin de te retrouver avec une dette et des intérêts pendant 36 mois. Arrête ça tout de suite, il a appelé, il a coupé, et aussitôt qu'il l'a fait, la même personne dit, mais non. Il dit, moi j'ai trouvé quelque chose à tel prix. Il dit, mais nous pouvons aussi nous donner le même au même prix. De 30 000 à 5 000, du vol. Voici ce qui existe, comment on vole les clients. Des gens qui pratiquent, je passe dessus rapidement, des taux d'intérêt, des prêts, des taux d'intérêt, d'usure, etc. Il ne faut pas se consoler. Il y a même des individus qui le font vis-à-vis de leurs frères, etc. Des taux d'intérêt usuraires, absolument. Donc c'est pour ruiner quelqu'un. Et il se console en disant, mais si tout le monde le fait autour de nous, et tout le monde le fait, moi je ne suis pas celui qui a inventé ce genre de choses, etc. Et puis je n'ai forcé personne. Il y a plusieurs textes que je vais juste vous donner les références. Dans Michée chapitre 6, le verset 11, où on condamne ce genre de pratiques. Et Jésus lui-même condamne ce genre de pratiques dans Matthieu 21, versets 12 et 13, quand il s'adressait à ces vendeurs, des changeurs qui étaient dans le temple, etc. Ils ont fait de la maison de son père une caverne de voleurs, etc. Je vais ouvrir une petite parenthèse ici parce que j'ai souvent entendu des commentaires où dit même dans les églises, on vole les gens en vendant des Bibles ou des livres. Frères et sœurs, il ne faut pas exagérer non plus. Nous avons une librairie, toute petite librairie ici. C'est pour éviter des gens qui ont besoin d'une Bible d'aller l'acheter au centre-ville, etc. On le fait, la course pour eux, on vient les mettre ici. Et donc, on n'est pas en train de faire de l'argent sur le dos des gens. Non, non, pas du tout. C'est donc pour faciliter, permettre aux gens d'avoir à portée de la main la Bible, la parole de Dieu, et même certains autres livres qui peuvent être bons pour la croissance spirituelle des gens. Ça, ce n'est pas du tout du vol. Je l'ai entendu. Il y a même des églises qui font parfois la vente de CD ou de DVD, mais avec un objectif de financer un projet. De financer un projet. Donc ça, il ne faut pas abuser pour dire que c'est du vol. J'ai parlé de la victime qui pouvait être votre client, mais la victime peut aussi être votre employé, des gens qui emploient des gens, à qui vous dérobez son droit à une rémunération juste, une rémunération équitable. Il ne faut pas oublier que la personne contribue aux bénéfices que vous réalisez, contribue à la prospérité de l'entreprise. Non seulement une rémunération équitable, mais une rémunération régulière. Peut-être qu'ici, ça n'a pas sa place. Mais dans certains pays, il y a des gens qui mettent longtemps avant de toucher leur salaire. Or, ces gens ne comptent que sur ça pour avoir le moyen de subsistance. Ne pas leur payer leur salaire alors que l'entreprise fait de l'argent, c'est du vol. Vous dérobez. Vous dérobez, vous nuisez à la vie des gens. Donc, tout retard que l'on peut avoir à payer quelqu'un de son droit est préjudiciable et c'est considéré aussi comme étant quelque chose que l'on a dérobé. Je vais lire, il y a un texte dans Lévitique, on va dire, Lévitique 19, le verset ici, le verset 13, qui réglemente les relations avec l'entourage. Verset 13, il est dit, « Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. » Mais on dit encore, « Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. » Donc, il travaille pour l'argent, mais tu ne retiens pas jusqu'au lendemain. Il a fait son travail aujourd'hui, tu le payes aujourd'hui. Dans le cas où on payait, c'était des journaliers. Il travaille aujourd'hui, tu le payes aujourd'hui, tu ne retiens pas son salaire. Tu dis, reviens dans une semaine parce que tu es dans une position de force. Il a déjà fait le travail, il mérite son salaire. Tu ne le retiens pas jusqu'au lendemain, donc le salaire du mercenaire, de la personne qui travaille pour toi. L'épître de Jacques, chapitre 5, en parle. Vous allez dire que c'est peut-être plus moderne, c'est plus près de nous. Je vais lire à partir du verset 2. Il dit, « Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie. Leur salaire crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. » Il dit que voici, verset 4, « Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. » Oui, vous avez fait votre récolte, ils ont moissonné. Vous pouvez vendre le produit, mais vous avez retenu leur salaire. Vous les avez frustrés. Ça veut dire qu'ils ne recevront probablement jamais leur salaire. Ils sont frustrés. C'est du vol. Mais leur salaire crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Je dis, vous pouvez faire des choses. Personne ne le sait, mais le Seigneur le voit et le Seigneur entend les cris des gens à qui on a fait du mal. Nous avons un voisin qui est décédé, qui, chaque fois qu'il voyait Donna déplacer l'auto, il habitait en face de nous, il disait, moi j'ai comme principe dans la vie de vivre et laisser vivre les autres. faire du bien aux autres, partager aux autres. Il vient, il fait un travail, je lui paye des centes, etc. Vivre et laisser vivre les autres. Mais si vous voulez justement vivre dans l'opulence, etc., votre or et votre argent sont rouillés, dit la parole de Dieu. Donc c'est le sens d'équité, le sens de partage, ne pas garder tout pour soi-même. Je vais continuer avant de terminer avec une autre catégorie de victimes. La victime peut aussi être votre employeur. J'en ai un petit peu parlé. On va lire un texte, par contre, dans le livre de Tite, l'épître de Tite, chapitre 2. On va lire les versets 9 et 10. C'est une série d'exhortations donc, pour une vie sainte, des choses qui doivent être essentielles, qu'on doit enseigner dans les églises. Alors, il dit au verset 9, « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses et à n'être point contredisant, à ne rien dérober. Ne rien dérober à leur maître, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. » Imaginez que vous dérobez votre employeur et qu'il sait que vous êtes chrétien, c'est quel témoignage que vous laissez autour de vous. Vous avez toujours dit, je vais à l'église chaque dimanche, je ne peux pas manquer la réunion d'église, je fais ci, je fais ça, mais on découvre un jour que vous avez dérobé. Je dis que nous avons une grande responsabilité. Nous pouvons nous-mêmes être un frein à ce que d'autres personnes viennent au Seigneur parce que nos agissements, quand ils voient ce que nous faisons, alors que nous proclamons de notre bouche que nous sommes chrétiens, ils disent, c'est ça être chrétien? C'est ça être chrétien? C'est cela. Donc, ne pas s'approprier des outils de travail sans autorisation, du matériel de travail, ne pas s'occuper à faire autre chose pendant les heures de travail, ne pas déclarer faussement qu'on est malade parce qu'on a envie de s'absenter. Oh, combien de fois ça ne nous est pas arrivé. Il change même de voile. Oui, chef, je suis mal. Je n'arrive même pas à me lever. Deux minutes après, tu es en train de courir dans la maison, tu sautes comme une gazelle. Tu vas être payé, mais est-ce que tu es payé justement? Non. La victime peut être votre employeur. La victime peut être aussi l'autorité publique, le gouvernement ou les gouvernements ou les municipalités, appelez ça comme vous voulez. Donc, ça peut être ça. Et je vais lire des textes davantage que de commentaires. Donc, dans Romains, chapitre 13, nous l'avons un peu lu, il est dit ceci au verset 7, Romains 13, au verset 7, « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui nous devons payer nos impôts auprès des gouvernements, payons nos impôts. » L'Épître aux Éphésiens, le chapitre 4, un encouragement à ne plus dérober. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il dit, ne dérobez pas, mais allez plutôt travailler. Au contraire, non seulement que vous allez pourvoir à vos besoins, mais en plus, vous allez aussi pourvoir aux besoins d'autres personnes. Donc, on travaille pas juste pour soi, on travaille aussi pour pouvoir aider d'autres personnes. C'est bien, les vertus du travail. Je termine avec un texte dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10. « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, ce n'est pas que si quelqu'un ne travaille pas parce qu'il n'a pas trouvé d'emploi, non. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Aussi clair que cela, quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Un dernier texte, nous n'allons pas lire, vous le savez, dans Luc, c'est Jésus qui parlait, un peu la même chose, Luc 20, 25, « Rendez à César ce qui est à César. » Tout ça pour dire quoi? Que les impôts, les taxes non payées, c'est du vol. On doit payer nos impôts, il faut les payer. J'aime toujours rappeler pendant la période où on fait ces déclarations, ne laissez pas des idées commencer à vous envahir. Comment faire pour avoir plus de retours d'impôts en contournant les lois? Payez les impôts qui sont dus. Vous avez fait un revenu, payez les impôts. Oui, si vous avez des réductions qui sont permises par la loi, servez-vous de cela. Mais ne cherchez pas des manières un peu à tricher tout simplement, etc. Donc, payez les impôts, payez les taxes, sinon c'est du vol. J'ajoute ici, puisqu'on parle de ceux qui ne veulent pas travailler, vivre au bien-être social. Ce n'est pas une injure à quelqu'un qui est au bien-être social. Je dis, si quelqu'un peut travailler, moi j'en ai connu des gens qui venaient dans l'église, on leur dit de travailler. Ils disent non, je ne veux pas travailler. Ça fait 15 ans, je suis bien avec ce qu'on me paye au bien-être social. Je suis bien, ça fait 15 ans, je n'ai pas besoin de travailler. On lui trouve le travail, le lendemain, il lâche. Vivre au bien-être social, au lieu de travailler sans empêchement sérieux, c'est du vol. Vous le faites juste par paresse ou parce que vous voulez tout simplement profiter du système. De toute façon, ils ne contrôlent même pas. Ils ne sauront même pas que je travaille, que je ne travaille pas. Ils ne le savent pas. Pour un enfant de Dieu, nous disons que c'est du vol. C'est du vol. Je ne peux pas dire autrement. On ne peut pas se cacher derrière de faux prétextes. On dit, oh, tout autour de moi fait la même chose. Regardez le nombre de gens qui sont au bien-être social. Depuis leur naissance, c'est des pères en fils. Oui, mais les autres, c'est les autres. Toi, tu as eu accès à la vérité. C'est la vérité qui a franchi et nous devons nous soumettre à la vérité pour pouvoir plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Même si ça ne fait peut-être pas grand-chose au gouvernement, mais je pense que oui, quand même, le jour où le gouvernement peut économiser tout l'argent, hein, parce qu'il n'y a pas que le chèque qu'on donne aux gens, il y a tout ce qui vient avec. Les soins médicaux, les ceci, les cela. Si tu travaillais, tu paierais ta cotisation à l'entreprise, tu aurais des meilleures assurances, et tu aurais des, etc., etc. Donc, nous devons éviter ça et ne pas se donner des faux prétextes disant que les autres font la même chose. Tu n'es pas tout le monde, tu n'es pas comme les autres. D'autres diront, comme je l'ai entendu dans certains pays, ils disent on ne fait que récupérer ce que le gouvernement nous doit d'ailleurs. Le gouvernement nous en prend beaucoup, on ne fait que récupérer ce que le gouvernement nous doit. Alors, la Bible ne nous recommande pas de se faire justice soi-même. Laissez Dieu être votre justice. Lui seul peut être votre justice. Et je termine avec un dernier point qui n'est pas le moindre, parce que la victime peut être Dieu lui-même. Et ça, c'est grave. Quand on arrive à voler Dieu. Vous connaissez ces passages dans le livre de Malachie, hein, chapitre 3. On va juste le lire, un verset, le verset 8, chapitre 3, le verset 8, où Dieu est en train comme de dialoguer avec son peuple. Verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Alors il dit au verset 8, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et il dit, dans les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes étaient faites pour faire fonctionner le temple. Donc si les gens décident de ne pas amener les dîmes, de ne pas payer les dîmes, de ne pas amener leurs offrandes, on est en train de dérober ce qui revient à Dieu. C'est grave, c'est grave. Ce qui doit servir au bon fonctionnement du temple, ce qui doit servir au bon fonctionnement de l'Église pour que l'Église puisse assurer sa mission, vous ne l'apportez pas dans la maison du Seigneur, ben vous êtes en train de dérober ce qui appartient à Dieu. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, le chapitre 2, une autre façon où on vole tout en prétendant servir le Seigneur. Le verset 17, Paul dit aux Corinthiens, il dit, mais car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Il a constaté, il sait qu'il y a des gens qui falsifient la parole de Dieu pour en retirer des intérêts financiers, des intérêts matériels. Nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Frères et sœurs, il n'y a rien de pire que d'apporter des enseignements qui soient malhonnêtes, parce que juste on recherche un gain personnel. On recherche un gain personnel aux dépens de la vérité de l'Évangile. On veut sacrifier la vérité de l'Évangile et on va tordre les Écritures parce qu'on recherche. Il y a tellement de ministères de délivrance qui pullulent, je dis bien qui pullulent, ça s'ouvre partout. Je fais de la délivrance. Dans votre église, on ne fait pas de délivrance. Moi, je fais de la délivrance et c'est payant. Et c'est payant des sommes importantes parfois. Ta situation, ta famille, là, il y a des choses graves qui sont passées dans ta famille. Vous, ça prend 5 000 $ pour procéder à votre délivrance. Tordre les Écritures pour des intérêts matériels, c'est du vol. Des gens qui s'amusent à vendre de l'eau dans des petites bouteilles, des mouchoirs ou je ne sais pas quoi, etc. Ah, si vous avez ça dans votre maison, si vous avez ceci dans votre maison, vous avez... ça, l'argent rentre. Les gens sont tellement crédules. Hein? Ils acceptent tout ce qui est dit. Mais il n'y a rien qui soit basé sur la parole de Dieu. Il n'y a rien qui soit vrai. Et ça ne vient même pas de Dieu, mais c'est pour faire de l'argent. Voler. On dérobe. On dérobe aux yeux de Dieu. Faire aux gens des promesses de prospérité. La prospérité nous vient de Dieu. Je n'ai rien contre qu'on dise aux gens que Dieu fait prospérer, etc. Mais le dire en donnant, si vous donnez un montant, alors je prie pour vous et les portes de prospérité vont s'ouvrir. Non, c'est des pratiques, c'est des méthodes qui sont tout à fait malhonnêtes et qui nuisent à long terme. J'ai dit à long terme, peut-être que j'exagère. C'est peut-être même à court terme, puisqu'on le sait. Ça nuit à l'œuvre de Dieu. Quand les gens découvrent la supercherie, oui, mais depuis des années, je donne, mais... je ne vois pas venir cette prospérité qui m'a été promise. Ça m'a coûté cher. C'est comme ça que des scandales sortent. Vous apprenez que tel est allé à la télévision. Il appelle les gens pour filmer. Voici, j'ai donné. Nous devons avoir la crainte de Dieu, etc. Parce que quand toutes ces supercheries sont découvertes, frères et sœurs, mais ça fait mal et ça nuit à l'œuvre de Dieu. Alors je termine donc en disant que nous ne devons pas fermer les yeux à toutes ces facettes de ce qu'on appelle dérober dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs facettes. Je n'ai peut-être pas tout dit, il y a certainement d'autres aspects, mais je pense avoir dit les principales. Ce serait donner donc accès à l'ennemi, tout simplement ouvrir la porte à l'ennemi. Et quand il entre, vous savez que c'est difficile. Quand il entre, il ne prend pas de répit. Quand on lui a ouvert une porte, la Bible nous dit dans Jean 10:10 qu'il vient pour égorger. Tu ne fais pas des exercices avant d'égorger quelqu'un. Si tu es venu avec l'intention d'égorger, tu passes à l'action. Il vient pour égorger, tuer, voler, détruire et déstabiliser les gens. C'est ça la mission. Et donc, ne lui ouvrons pas la porte, même par des petites choses que nous pouvons négliger, mais que la parole de Dieu nous prévient que c'est une façon de dérober. Que le Seigneur donc nous aide à toujours prendre garde aux avertissements de la parole de Dieu. Prendre garde aux avertissements. Quand on enseigne ce genre de message aux petits-enfants, eux, ils comprennent tout de suite. Ils comprennent tout de suite et ils arrêtent. Alors, soyons comme des petits-enfants. S'il y a des choses que nous faisions, laissons tomber et revenons sur les voies droites du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Réponds à ça. N'hésitez pas d'exhorter. Vous sauverez une âme. Vous sauverez une âme. Amen.